Donc c'est le petit Gwen, la couette du 76. C'est juste pour dire que le ciné Hebdo est sorti aujourd'hui, mercredi 10 septembre, et que il faut surtout l'acheter parce que c'est terrible. Voilà, concurrence directe à Charlie. Bisous, ciao.
Daniel, bonjour. Olivier de Lambesque dans les Bouches-du-Rhône, un petit soldat, un grand moment de bonheur ce mercredi 10 septembre, jour de la sortie du numéro 1, et j'espère qu'il y aura des milliers d'autres de Ciné Hebdo. Mon Dieu, quel régal. Allez, bonne journée, merci, merci Daniel.
Oui, bonjour, c'est madame Christine Lagarde. Oui, voilà, je vous appelais pour raconter des grosses conneries. Par exemple, tout à l'heure, en sortant de chez mon petit Nicolas, hein, ce cher président, je parlais au sujet du fichier Edwige à mes chers collègues et non moins amis journalistes, hein, que j'apprécie beaucoup, mais à part quand ils me posent des questions qui m'embarrassent et auxquelles je ne sais pas quoi répondre. Donc, au niveau de ce dossier Edwige, j'ai pu répondre, par exemple, que des garanties étaient formalisées, mais pas écrites. Voilà, on formalise sans écrire. Si ça, c'est pas la langue de bois, eh ben, vous m'en direz tant.
Oui, ben, ça fait bien, ça, c'est bien quand on bouge, hein. Ça prouve que quand on s'unit, il y a des résultats, quoi. Mais il faut continuer, faut jusqu'à l'abrogation totale de ce fichier, tout simplement. Allez, à plus.
Alors là, ils sont quand même gonflés de s'être servi de mon prénom pour leur fichier à la con. Alors je les préviens, ça va pas se passer comme ça. Il y aura des représailles. Ciao.
Cher Daniel, chère équipe de la Bassie, j'y suis, et chers auditeurs, je m'appelle Solange, je vous appelle de la petite suite d'à côté. Je profite du reportage qui a été diffusé, Big Brother is watching you, pour témoigner des agissements du plus grand groupe de l'alimentaire mondial, c'est-à-dire la multinationale Nestlé. Big Nestlé is watching you too. Nestlé est prête à tout pour maintenir au secret les recettes qui lui permettent d'atteindre des performances aussi remarquables. Ces performances se font, ne l'oublions pas, au prix de la violation des droits de ses 250 000 travailleurs de par le monde. Et, chose nouvelle, ici en Suisse, elles se font au prix de l'atteinte à la liberté d'écrire et de penser. Et oui, j'ai bien dit, la liberté d'écrire et de penser. En juin dernier, un reportage de la télévision suisse romande, Temps Présent, a révélé que Nestlé avait mandaté une entreprise de sécurité privée, Securitas, pour espionner le groupe de travail d'attaque qui rédigeait un petit livre appelé « Attaque contre l'Empire Nestlé ». Ce groupe de travail était essentiellement composé de chercheurs en sciences humaines et il a été préfacé par Suzanne George. L'espionnage a duré pendant une année, la police cantonale était au courant et elle n'a rien fait malgré l'illégalité d'une telle surveillance. La petite taupe, pendant une année, a eu accès au contact à nos contacts de syndicalistes colombiens. Elle a également rendu des rapports très détaillés sur les auteurs du livre, description physique, intensité de l'engagement, etc. Il y avait même des photographies. Aujourd'hui, Attaque Suisse est en procès contre Nestlé et Securitas. Deux plaintes ont été déposées. La procédure est en cours. Ce procès va coûter très cher. L'existence d'Attaque Suisse est menacée. Donc voilà, je vous appelais pour témoigner, pour vous mettre au courant avant tout. Et si des auditeurs modestes et géniaux voulaient nous soutenir, vous pouvez avoir toutes les informations à www.suisse.attaque.org. www.suisse.attaque.org. Voilà, merci beaucoup pour vos émissions. Merci à tous, je vous salue. Au revoir, à bientôt.
Oui, bonjour messieurs, je suis en train d'écouter votre émission. Vous parlez de Géorgie avec un reporter comme Bernard-Henri Lévy et qui est allé en Géorgie pour soutenir le peuple géorgien et le président de Géorgie. Mais à un seul instant, vous avez parlé du peuple Osset qui est complètement oublié dans cette histoire. Le peuple qui a souffert, et c'est, de toute façon, c'est Géorgie qui a attaqué l'Ossétie. Et s'il n'a pas fait ça, on parlait pas aujourd'hui de ce conflit. Donc, je vois pas pourquoi il a toujours a priori, surtout de la part des Occidentaux. Et je trouve c'est inadmissible qu'un philosophe et écrivain comme Bernard-Henri Lévy, qui prend toujours part, toujours les côtés qui sont toujours soutenus par les Américains. Pourquoi on parle toujours des mêmes et pas des autres? Et c'est les gens, il y a des gens aussi qui sont dans le grand malheur. Et je vois pas pourquoi il y a toujours a priori. Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Eh bien c'est vrai ça. pourquoi on parle toujours des mêmes et pas des autres? On essaye, faut bien le dire quand même, il faut bien l'avouer maintenant, à la base, il suffit de faire l'inverse, de parler des autres et pas toujours des mêmes. Merci, quoi qu'il en soit, pour tous ces messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Il faut retenir votre attention sur cette affaire Nestlé et les inspections qu'il y a eu, enfin les suspicions autour de l'enquête menée par Attaque Suisse. C'est très intéressant d'aller faire un tour sur le net pour en savoir plus. Aujourd'hui, comme chaque mois depuis des années et des années, on se retrouve avec l'équipe du mensuel Le Monde Diplomatique autour du numéro de septembre, qui contient toute une série évidemment de papiers plus passionnants les uns que les autres, vous vous en doutez bien. Nous, on va parler de la Bolivie avec Maurice Lemoine, développement sur ce qui se passe dans ce pays. Ça vaut le coup pour une fois de s'intéresser à... un pays qui n'est pas l'Ossétie, qui n'est pas la Géorgie, dont on parle peut-être un peu moins actuellement. On s'intéressera aussi aux retraites avec Pierre Concialdi, changer le travail pour financer les retraites. Et oui, pourquoi est-ce que ce serait toujours c'est la difficulté de financer les retraites? Mais il y a aussi, évidemment, le travail et le lien entre le travail et puis les retraites et les moments où on est actif, mais sans que ce soit pris en compte dans la notion de travail. Et puis un grand dossier dans le diplôme de ce mois-ci sur l'humanitaire. Ça, c'est un thème évidemment qui revient souvent dans la base. Si j'y suis depuis des années à travers les reportages que nous vous présentons à travers le monde, souvent nous sommes en lien et mêlés à cette histoire d'humanitaire. Et puis je vous recommande à la dernière page du diplôme de ce mois-ci un portrait tout à fait explosif d'un certain Philippe Stark par Mona Chollet. Et puis on va évoquer aussi l'affaire Richard Labévière, ce journaliste de RFI, Radio France Internationale, qui a été froidement licencié au mois d'août dernier, et un licenciement qui ne suscite pas une très très grande émotion dans cette profession. Moyennement. Et puis évidemment, je n'oublie pas l'essentiel, c'est le jour de ciné aujourd'hui, Ciné Hebdo. Il paraît que ça s'arrache et qu'on n'en trouve plus déjà à l'heure où je vous parle. Voilà. Tout ça, mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Lapi. Je viens vous parler du casse du siècle. Je veux dire, 45 millions pour préjudice moral. Pour quelqu'un qui nous a démontré sa grande morale, magouille, licenciement, match de foot truqué. Mais trêve de plaisanterie. Demandez à n'importe quelle victime tétraplégique quelle indemnisation totale il a perçue. Elle a perçu. Mais simplifions, 45 millions d'euros, soit 295 millions de francs pour 70 millions de Français. Ça fait exactement 640 000 euros ou 4,2 millions de francs par Français. Ça fait deux belles maisons par tête. Et si on nous raconte que l'État n'a pas les moyens de sauver la Sécu et les retraites, non mais pour Mitterrand, on publiait un bulletin de santé. Je serais aussi demandeur, moi, d'un bulletin de santé mentale de ceux qui ont pris cette décision. Parce que c'est même pas une décision de justice, le pire. Bon, voilà. Bonne journée après ça. Il faut quand même qu'on aille bosser parce qu'on n'est pas prêt de les gagner, ces maudits millions.
Oui, bonjour tout le monde. Je viens vous annoncer le repère de Montreuil. Alors, ce repère est un petit peu particulier. On va en faire un repère bicéphale. Ah. On va garder notre petit café de la rue Piétonne où on peut organiser des projections, c'est bien pratique, mais où on est un peu isolé au fond de la salle. Donc une fois sur deux, on ira dans un café de la rue de Paris pour essayer de dégoter quelques Montreuillois parce qu'il n'y a presque pas de Montreuillois dans notre repère de Montreuil. Alors, Montreuillois, Montreuilloise, moi je vous dis, venez en foule ce mercredi 10 septembre à 19h au Royal Montreuil qui se trouve 59 rue de Paris. C'est pile poil en face du marché de la Croix de Chavaux. Et les non-montreuillois comme moi par exemple sont aussi bienvenus, c'est l'évidence. apportez vos lectures, vos coups de gueule, vos moqueries, histoire de prouver que nous sommes vraiment modestes et géniaux. Des bises. Salut.
Bonjour, là-bas si j'y suis, Martine de la Loire. J'appelle pour vous raconter ce qui m'est arrivé hier avec ma caisse d'assurance maladie. Depuis quelques jours, je suis en arrêt maladie depuis plus de 6 mois. Or, je ne le savais pas, la caisse d'assurance maladie envoie dans ce cas-là au médecin de famille un papier qui demande quel est le protocole de soins qui a été souhaité. Si ce document ne parvient pas rapidement à la caisse d'assurance maladie, cela bloque le paiement des indemnités journalières. Et c'est ce qui m'arrive depuis quasiment un mois. Donc, m'inquiétant de ne pas recevoir quoi que ce soit depuis un mois au niveau des indemnités journalières, je me suis permise d'appeler le 3646. Et dans la discussion, quelle n'a pas été ma surprise d'entendre, de m'entendre dire « Mais madame, ce document, ça ne vous regarde pas. » Ah ben je lui dis « Attendez, vous faites des choses dans mon dos. Ça bloque mes indemnités journalières, je pense que ça pourrait me regarder. Et puis même, toute relation avec mon médecin, qui est provoquée par la caisse d'assurance maladie, c'est tout de même mon dossier, c'est moi qui suis malade, j'aimerais bien être au courant quand même. » Eh bien non, ça ne choque absolument personne. Voilà. Je suis le jouet, sans doute, comme bon nombre de personnes en France maintenant. Eh bien je suis donc le jouet. Je ne dois pas connaître les tenants et les aboutissants. À bon entendeur. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from...
Alors, il y a le diplo papier, évidemment, chaque mois, mais il y a aussi le site du Monde Diplomatique. Et ce mois-ci, sur le site du Monde Diplomatique, ces jours derniers, il y a un papier intéressant sur ce qu'on est convenu désormais d'appeler l'affaire Labévière. L'affaire Labévière, c'est Richard Labévière, qui est un confrère, journaliste, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, et qui travaille à RFI, Radio France Internationale, qui travaillait parce qu'il a été brusquement, étrangement licencié le 12 août dernier. Une chose qui se passe un peu au mois d'août, comme ça, quand il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, pour comprendre, il faut rappeler que Labévière est entré à Radio France Internationale en 2000 comme chef du service international, qu'il a publié un certain nombre de livres d'enquêtes sur le Moyen-Orient avec lesquels il ne s'est pas fait que des amis. En tout cas, il a été licencié donc ce 12 août dernier. La raison invoquée par sa direction, c'est qu'on lui reproche d'avoir diffusé le 8 juillet un entretien avec le président syrien Bachar el-Assad avant la venue de celui-ci à Paris, vous vous en souvenez bien sûr, le 13 juillet. Or, sa direction reproche à Labévière, à Richard Labévière, de n'avoir pas averti sa hiérarchie de cet entretien qui était au contraire, non peut-être pas un scoop, mais en tous les cas un bon travail de journaliste. Donc l'argument, le motif invoqué pour ce licenciement semble plutôt flou. Sur le fond, en vérité, cette affaire éclaire un conflit, une tension au sein des médias en France et notamment de Radio France Internationale sur le traitement concernant le Moyen-Orient et le Proche-Orient, évidemment. Pour certains, on glisse vers une ligne anti-arabe et pro-israélienne. Et évidemment, pour les autres, c'est le contraire. En tous les cas, il semble bien que Richard Labévière ait fait les frais de ces tension. Ce qui était étonnant, c'est qu'on ne parle pas plus de ce licenciement. Faire taire un journaliste, ça n'est pas rien, en principe, dans ce pays. Alors, il existe un site de soutien à Richard Labévière, une pétition qui circule. Vous pouvez aller sur le net pour comprendre l'histoire dans ses détails. C'est assez croustillant. Et j'ai voulu joindre Richard Labévière il y a quelques instants au téléphone. Alors, Richard Labévière, bonjour.
Bonjour.
On a parlé à votre sujet d'un licenciement politique, d'un licenciement pour délit de sale gueule idéologique. Ça fait pas mal de vagues quand même, mais pas celle que vous souhaitez bien évidemment, pas celle que souhaitent certains, dont le monde diplomatique qui sur son site ces jours derniers a sorti un papier sur cette affaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce licenciement dont vous êtes victime?
Écoutez, j'ai été licencié le 12 août dernier par la direction de Radio France Internationale pour faute grave. Or, le dossier disciplinaire est totalement vide. Les fautes graves sont assez incompréhensibles, puisqu'on me reproche, un, d'avoir fait une interview du président syrien Bachar al-Assad, que j'ai réalisé le 8 juillet, à la fois pour Radio France Internationale et à la fois pour TV5 Monde, puisque les Syriens m'ont accordé cette interview pour RFI et TV5 Monde conjointement, et donc ma direction RFI m'a reproché, alors qu'elle était parfaitement au courant et que j'ai eu une autorisation de travail pour TV5 Monde, d'avoir aussi fait cette interview pour TV5 Monde, qu'il a diffusé, il est vrai, avant RFI, pour des raisons techniques et de post-production qui incombent aux directions respectives de RFI et TV5 Monde. D'où, effectivement, face à ce vide du dossier et à des viols de procédures répétées violant le droit du travail et la convention des journalistes, donc ramenant effectivement ce licenciement sur une raison politique évidente et, comme je le disais, un délit de sale gueule idéologique, puisqu'il s'inscrit dans une succession, puisque je rappelle que j'ai été dessaisi de l'éditorial international en 2005 à la demande expresse de l'ambassadeur d'Israël de l'époque, Nessim Svili, auprès de la direction d'RFI déjà. Donc cette décision, ce licenciement estival, si vous voulez, pendant que les Français sont sur les plages, est intervenu dans un contexte de reprise en main de l'antenne de RFI et de l'antenne de France 24 qui sont appelées à fusionner à terme.
Alors, Richard, comment vous expliquez que vous n'avez pas été soutenu par vos confrères de RFI ?
Écoutez, j'ai été soutenu et je suis soutenu par beaucoup de confrères. Le problème, vous savez, moi j'avais demandé avec mon avocat le déplacement du conseil de discipline prévu le 6 août à la rentrée, parce que tout le monde était en vacances en réalité. Donc il y a effectivement une configuration très clanique au sein des RFI. Hein. Moi-même, j'ai été chef du service étranger où forcément, quand on est responsable et cadre dans cette maison, on ne se fait pas que des amis. Mais globalement, si vous voulez, la brutalité et les méthodes employées quand même font que aujourd'hui, sur le plan syndical en tout cas, la CFDT qui est mon syndicat, mais aussi le SNJ et la CGT me soutiennent de manière indéfectible dans cette opération.
Alors, licenciement politique, dans le texte qui circule sur Internet de la campagne de soutien à vous-même, on peut lire ceci, l'affaire Richard Labévière s'inscrit dans l'orwellisation en cours de la presse française, oui. La remise en cause du pluralisme journalistique et de la liberté d'expression au pays des Lumières, avec pour horizon la volonté d'imposer une lecture unique, néoconservatrice et inconditionnellement pro-israélienne des crises et des relations internationales. Donc, d'après votre soutien, ceux qui vous soutiennent, enfin cette campagne, c'est vraiment un licenciement politique.
Oui, bien sûr, quand je parle d'orwellisation, si vous voulez, on peut la caractériser de trois façons. Et cette orwellisation touche très très directement l'antenne de RFI et la couverture de France 24 sur les crises proches du Moyen-Oriental. Le premier facteur, c'est très clairement une production, une communication qui supplante l'information factuelle et le commentaire politique. Le deuxième aspect, c'est la morale qui se substitue à l'analyse politique et à la lecture, au déchiffrage politique des choses. Et je dirais que le troisième élément de cette orwellisation, c'est la dualité, le bien contre le mal, les bons contre les méchants. Donc ça se traduit à Radio France Internationale par la disparition du kiosque arabe, de certaines émissions, par la reprise en main, si vous voulez, du vocabulaire et de la sémantique, où on ne parle plus du mur israélien, mais d'une barrière de sécurité. On ne parle plus de colonisation, de colonie, mais d'implantation. On oblige les, journaliste a parlé de Jérusalem comme la capitale d'Israël, alors que jusqu'à preuve du contraire et selon les résolutions des Nations Unies, Jérusalem est toujours un territoire occupé, donc la vraie capitale politique d'Israël est Tel Aviv, etc., etc. Donc on assiste bel et bien à une organisation générale, je dirais, de la presse en général française et en particulier de Radio France Internationale et de France 24. Et vous n'avez pas du tout cette restriction du pluralisme et de l'indépendance sur la couverture des Proches et Moyen-Orient dans la presse espagnole, allemande ou britannique. C'est très lié à un syndrome français, si vous voulez, dans un millimillion, une confusion de mémoire historique mal assumée. Et il est clair que la presse israélienne est beaucoup plus libre, si vous voulez, les crises proche-orientales que la presse française. Et je rappelle que c'est quand même Madame Christine Ockrent, femme de Bernard Kouchner, qui a quand même été à la manœuvre dans le cadre de mon licenciement estival.
Ok. Richard, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Voilà, pour en savoir plus, vous allez sur le site du Monde Diplomatique, un papier de Marc Handevelde intitulé « Licenciement politique à RFI ». Vous aurez tous les détails et le temps de comprendre cette histoire. Et puis, vous avez aussi sur le net une pétition de soutien à Richard Labévière qui circule. Voilà, on va retrouver l'équipe du Monde Diplomatique au grand complet, ou presque. Alors, on se retrouve, c'est la rentrée aussi avec le Monde Diplomatique, avec ce numéro du mois de septembre, avec toute une série de papiers, et on va s'attarder sur quelques-uns de ces papiers, notamment ce qui fait l'essentiel de ce numéro, c'est sur l'humanitaire. Voilà que le Diplo se penche sur l'humanitaire qui, depuis quand même pas mal d'années, est en question. Et on commence avec un titre qui dit assez bien la question qui est posée, c'est « Derrière les évidences humanitaires, une morale très politique ». Et je vous donne tout de suite la conclusion. Comme ça, on va gagner du temps. L'émotion humanitaire empêche la rébellion. Alors, ça, c'est quand même un sujet qu'on suit depuis des années, notamment les auditeurs de l'émission qui nous suivent savent que c'est un souci permanent, parce que c'est vrai que sur le terrain, quand on va au loin, dans les situations de conflit ou les situations douloureuses, on a recours aux humanitaires. Il faut bien le dire que c'est pour nous des moyens d'atteindre les témoins ou les sujets que nous traitons. Mais c'est vrai que très souvent, on se trouve avec la victime et on a vis-à-vis de la victime une sorte de malaise, parce que cette victime, il y a un rapport que vous soulignez tout de suite, Bernard Ours, que vous êtes l'auteur de ce papier, il y a un rapport quand même particulier entre le sauveur et le sauvé. Le sauvé étant absolument inerte, à la merci de la caméra ou du photographe, et étant assez privé dès le début de son humanité.
Oui, le sauvé, il se voit d'abord comme quelqu'un qui a un problème. Ça peut être une inondation, ça peut être une poursuite, une répression politique. Je veux dire, c'est dans sa vie quotidienne que survient ou surviennent des événements. À partir de là, pour en faire une victime, c'est une construction d'un tiers, qui est le tiers étranger. Ces victimes sont construites, et elles sont construites par l'intervenant qui fait la médiation.
Alors, c'est pas la seule critique que vous faites. La critique que vous faites, enfin les observations que vous faites en anthropologue que vous êtes, c'est quand même le rapport entre la morale et le politique. C'est-à-dire qu'on a une attitude, une approche compassionnelle au nom des droits de l'homme supposés universels et universalisables, et on est dans une attitude morale. Et pour vous, ce moralisme se fait au détriment du politique.
On voit le champ politique, ce qui constituait le champ politique au 19e, 20e siècle, on le voit aujourd'hui depuis la fin du 20e siècle, totalement envahi par des critères moraux. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de l'axe du mal ou de le bien et le mal. Et donc la plupart, comment dire, à mesure qu'avance, à mon sens, l'indigence de la réflexion politique, avance en termes de compensation un envahissement de la morale de tous les débats politiques. D'ailleurs, là où auparavant il pouvait y avoir débat avec des gens qui exprimaient des points de vue divergents, divers, en vue d'un arbitrage politique, c'est-à-dire d'une sorte de négociation démocratique, on a de plus en plus des bouffées d'émotions appuyées sur des choses morales, des convictions morales. Oui, c'est bien, oui, c'est mal, oui, il a raison, non, il a tort, c'est un mensonge, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on offre au public que les vues extrêmes d'un côté ou de l'autre.
Mais est-ce que l'humanitaire aujourd'hui ne ressemble pas aux ordres charitables d'autrefois, des ordres charitables des missionnaires qui allaient partout dans le monde, qui précédaient, qui étaient le goupillon qui précède le sabre et qui étaient là pour faire le bien? Et c'était évidemment très difficile de critiquer une brave religieuse qui aidait, ou ces gens qui effectivement se dévouaient. Et là, on se retrouve finalement, c'est encore un effet du grand bond en arrière, entre la charité et la justice, c'est le retour du charitable.
Absolument. La charité tend de plus en plus à remplacer la justice parce que on assiste à une régression des politiques sociales qui est manifeste. À une perte de pas mal d'acquis sociaux qui sont pas intangibles mais qui néanmoins représentaient des progrès pour les gens qui en bénéficiaient, et cela est remplacé par des prises en charge de type humanitaire qui commencent même à s'implanter chez nous. Je veux dire, les ONG, les Restaurants du Cœur ou d'autres organisations de ce type-là qui sont parfaitement utiles, qui le contestent certainement pas moi, mais qui sont utiles, mais qui viennent remplacer un déficit des politiques publiques. C'est manifeste. Et que, donc on peut en déduire que plus les politiques publiques régresseront, plus il y aura une sorte de prise en charge de type philanthropique, soit de la société civile, soit des entreprises, enfin toutes des organisations, mais qui n'ont absolument pas l'autorité de l'État, ni le mandat social et moral de l'État.
Ça, c'est la privatisation de la solidarité.
Voilà, tout à fait.
Alors, il y a l'ingérence, le droit d'ingérence. On se dit, dans tel pays, les gens sont en train de souffrir, c'est épouvantable, il y a un tyran sanguinaire qui les tient sous sa coupe, et il faut intervenir, il faut faire quelque chose, on va intervenir. Et alors il y a une mystérieuse et très floue communauté internationale qui est à ce moment-là sollicitée pour intervenir. Et on ne sait pas très bien où commence, où s'arrête ce droit d'ingérence et cette ingérence?
Oui, l'ingérence, c'est un cadeau empoisonné de l'actuel ministre des Affaires étrangères français, à savoir que le droit d'ingérence, on ne peut pas contester le devoir d'ingérence. Tout comme un médecin a le devoir de soigner les malades, vouloir rendre service à quelqu'un est parfaitement respectable, vouloir aider quelqu'un. Mais le droit d'ingérence est devenu un instrument de pression politique entre les États, parce qu'il s'agit de pression politique. Donc le droit d'ingérence ouvre un champ de conflit, de contestation politique et juridique qui est sans fond, je veux dire. Le droit d'ingérence provoque autant de problèmes qu'il en résout. Et à mon sens, il en provoque beaucoup plus qu'il en résout. De toute façon, l'humanitaire, si on observe le discours du président de la République française actuel, on voit très bien que dans son activité, il y a toute une part, tout un volet humanitaire. Le discours humanitaire est entré en politique, et dès lors que les politiques s'en sont saisis, les humanitaires professionnels en ont été en partie dessaisis. Et ça, ils apprécient très modérément. Et donc, il est évident que la vie quotidienne d'un humanitaire sur un terrain n'a rien à voir avec celle d'un député ou du président de la République. Et donc, l'usage qu'ils vont faire du discours moralisateur humanitaire est complètement différent. Et de ces deux types d'acteurs résultent des distorsions et des risques permanents.
The enemies of Africa are now praying.
J'arrive à la douane, oh, oh, le douanier me dit, en slip chaussette s'il vous plaît, je n'ai rien à déclarer, oh, rien à déclarer, oh. En slip chaussette s'il vous plaît, en slip chaussette s'il vous plaît, je marche dans la rue, le contrôle d'identité, eh, policier me dit, eh, en slip chaussette s'il vous plaît, la fouille au carré, en slip chaussette s'il vous plaît, et il me martyrise, en slip chaussette s'il vous plaît, ma dignité.
Rendez-moi ma dignité. The enemies of Africa. Rendez-moi ma dignité. The enemies of Africa and our brain.
Au devant des manifestations, le ministère nous tire dessus. Il nous met toujours en slip chaussette.
En slip chaussette, s'il vous plaît. En slip chaussette, s'il vous plaît.
J'ai rien à déclarer, oh.
En slip chaussette, s'il vous plaît.
Laissez-nous respirer, oh.
En slip chaussette, s'il vous plaît. Rendez-moi ma dignité.
On continue avec le monde diplomatique de ce mois de septembre et on va s'intéresser aux retraites. Et alors, il y a un papier de Pierre Concialdi qui nous dit en fait, si j'ai bien compris, hein, Pierre Concialdi, vous allez me dire, il faudrait qu'on travaille moins pour vivre mieux vieux. Si j'ai bien compris votre papier. C'est peut-être une conclusion qui m'arrange et qui me rend optimiste.
De toute façon, c'est une conclusion qui est certainement vraie. Hein. Il faudrait qu'on travaille moins, ça je pense que tout le monde sera d'accord. Et il est probable que si on travaille moins, on vivra mieux vieux. C'est une des conclusions qu'on peut tirer de l'article. Ce que j'ai voulu montrer en partant du point de départ, un peu la tarte à la crème, excusez-moi l'expression, le débat sur la retraite, on vieillit plus, donc évidemment s'il y a un peu plus de vieux, il faut un peu plus de retraite. Bon, de montrer d'abord, ce qui a été déjà montré dans beaucoup d'articles hein, du monde diplomatique, repartir de ce point-là, que la question du financement des retraites est loin d'être insurmontable. on y reviendra peut-être si vous le voulez.
Ah bah oui.
Et puis, dire, bah, derrière le débat sur les retraites, derrière cette, finalement cette approche comptable du débat sur la retraite, c'est voir la question de la retraite par le petit bout de la lorgnette. La vraie question qu'il y a derrière la retraite, c'est plus que votre, ce que vous avez retranscrit par votre formule, c'est la question du travail finalement. Comment on travaille, comment on reconnaît les différentes formes de travail dans l'entreprise, eh bien, ça, c'est la moindre des choses. Il faut que les salariés aient un salaire qui corresponde à l'apport qu'ils ont dans l'entreprise, mais aussi hors de l'entreprise. Et ça, on l'oublie trop souvent parce que la productivité, disons, c'est un peu la conclusion de, enfin, une des conclusions de l'article, elle se nourrit aujourd'hui de plus en plus de ces temps sociaux hors entreprise. Alors évidemment, tout le jeu des entreprises, c'est d'externaliser tout ça, de pas le payer, mais elles en profitent, elles, au bout du compte.
Comment ?
Ben, elles en profitent parce que, enfin, l'exemple le plus évident de tout cela, je crois, ce sont les intermittents du spectacle. Hein. On sait très bien que le travail d'un intermittent, c'est pas ça, c'est pas l'heure ou la demi-heure qu'il va passer sur la scène, c'est tout ce qu'il a engrangé, tout le travail évidemment de répétition, mais aussi tout ce qu'il a dans son expérience personnelle, tout ce qui lui permet de nourrir son spectacle. Et ben, c'est un petit peu la même chose pour...
C'est un petit peu comme les producteurs de radio qui travaillent qu'une heure par jour en principe dans leur émission, mais qui sont payés quand même pour 8 heures.
Évidemment, qui disent beaucoup, et puis on le voit pas, ce travail souterrain de soutier. Effectivement, c'est un peu la même chose, mais c'est vrai, je dirais, de façon plus générale, les modes de travail. On parle d'un travailleur collectif. Enfin, la productivité, disons, aujourd'hui, elle est devenue de plus en plus diffuse et collective. Et donc, ce que je dis simplement, c'est que il faut essayer par différents moyens de se réapproprier, de faire en sorte que les salariés se réapproprient cela en changeant de travail et aussi, évidemment, en finançant les retraites.
Alors, oui, parlons argent quand même.
Alors, la question du financement, on nous répète que va y avoir plus de personnes âgées et il sera impossible de financer les retraites. Donc, il y a une alternative qui est très simple pour comprendre le débat sur la retraite, à mon avis. La première, c'est celle qui se met en œuvre depuis une quinzaine d'années, c'est on n'augmente pas les financements qui vont au système de retraite. Et là, il n'y a pas de miracle. Si on fige la part des ressources qu'une société consacre à ses retraités, et s'il y a plus de retraités, eh ben, les retraites diminuent. Hein, un horizon de 40 ans, ça veut dire que grosso modo, les retraites sont divisées par deux. Ça veut dire aussi qu'il y aura tendanciellement de plus en plus de pauvres parmi les retraités. Donc ça, c'est un scénario qui est socialement...
C'est déjà le cas, on est déjà engagé sur cette pente.
Oui, les réformes de 1993-2003, donc les lois, mais aussi, il faut le dire, dans le cas français en tout cas, les accords des régimes complémentaires, parce que ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup aussi quand même pour dans le paquet des pensions, je dirais. Tout ça engage d'ores et déjà sur cette trajectoire. Hein. Et donc ça, c'est ce que je dis dans l'article, c'est une bombe sociale à retardement, puisqu'on parle beaucoup de bombe à retardement, un retardement démographique dans le débat sur la retraite. Moi, je pense que la vraie bombe à retardement, elle est sociale. Hein, et donc, on peut la désamorcer très simplement en finançant les retraites. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour les...
Comment on les finance? Sur quoi? En prélevant ou en cherchant l'argent où?
Il y a on peut en voir deux scénarios très simples. On va rester, je dirais, très raisonnable dans un premier temps. On va dire, les salariés vont financer eux-mêmes leur retraite. Hein, on va pas prendre sur les profits d'entreprise ou tout ce que...
Ah, j'avais peur.
Voilà, mais oui, je veux pas que effrayer les auditeurs. On va d'abord...
Une catégorie d'auditeurs. Hein.
Oui, oui. faire comme si les salariés finançaient eux-mêmes les retraites. Bah, ce que nous disent les scénarios officiels, hein, à horizon de 40 ans, c'est que le pouvoir d'achat devrait progresser au même rythme que la croissance. Hein, je passe sur les chiffres. Je vous livre le résultat du calcul. Si on finançait les retraites... En termes de salaire net, c'est-à-dire après paiement des cotisations pour financer justement ces retraites, les salariés auraient des gains de pouvoir d'achat en 30 ans de l'ordre de 50%. Alors on peut dire c'est pas suffisant, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils ont eu depuis 30 ans. Puisque depuis 30 ans, suivant les indicateurs qu'on prend, soit il n'y a pas eu de gains de pouvoir d'achat, soit au mieux ça a été de l'ordre de 10-15%. Donc c'est tout à fait possible. Et souvent, on a du mal à rentrer dans cette réalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est qu'on a complètement comprimé les salaires. Hein, on a eu une rigueur salariale qu'on a rarement connue. Et que c'est pas du tout le scénario officiel, en tout cas, que quelqu'un propose. Le scénario officiel, c'est pas qu'on va davantage comprimer les salaires, c'est qu'on va maintenir simplement la part des salaires dans le partage du revenu. Et si on respecte ce scénario, eh ben, on peut tout à fait financer les retraites. Évidemment, Il y a d'autres moyens de le financer. Des esprits malins peuvent penser au profit des entreprises, à une cotisation patronale ou à d'autres modes de financement. Mais ce que je veux simplement montrer, c'est il y a rien d'insupportable dans le scénario qu'on nous propose, enfin qu'on pourrait de financement des retraites. Si on l'écarte, c'est simplement pour que les entreprises aient davantage de capacité à capter la croissance future, les gains de productivité futurs, ne serait-ce qu'à travers ce biais-là.
Continue avec le monde diplomatique de septembre et là on va en Bolivie de haut en bas de la Bolivie. C'est un reportage de Maurice Lemoine avec des dessins d'Alexis Lemoine. Très bon dessin, c'est très bon. Et voilà, on s'intéresse à la situation en Bolivie entre le haut et le bas. Là, il se trouve que c'est le bas qui est riche, le haut qui est pauvre en Bolivie.
Oui, c'est un peu ça. C'est ça l'habitude de la radio. Hein. On va vite à l'essentiel.
On simplifie.
Bon, la Bolivie, vous savez, c'est un pays qui fait partie de l'axe du mal, vu depuis Washington, c'est-à-dire Venezuela, Équateur, Bolivie, Nicaragua. C'est un pays où, rappelez-vous, quand Evo Morales a été élu, le premier Indien élu en Amérique latine. On a eu, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'était extraordinaire dans nos médias. On a eu des feux d'artifice, du violon, après 500 ans de marginalisation, enfin un Indien arrive au pouvoir en Amérique latine. Et puis souvenez-vous, quelques mois après, Evo Morales a nationalisé les hydrocarbures.
Une fois qu'on aura récupéré ces ressources, cela générera du travail. C'est la fin du pillage de nos ressources naturelles par les multinationales du pétrole.
Et là, évidemment, on n'a pas eu tout à fait la même chanson, pas tout à fait le même couplet. C'est devenu, mais qu'est-ce que c'est que cet abruti d'Indien qui est la marionnette de Hugo Chavez et Fidel Castro? Bien.
Comme quoi, la diversité, il faut être prudent.
Il faut être extrêmement prudent. Alors, la situation en Bolivie, aujourd'hui, à l'heure où on parle, est extrêmement préoccupante. Parce qu'on est, on peut y compris prononcer le mot de... Vous savez que la Bolivie, dans son histoire républicaine, a eu plus de 180 coups d'État, qui étaient des coups d'État militaires. C'est un pays très instable, c'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Il y a peut-être une corrélation d'ailleurs entre les deux éléments. Et là, on peut se demander si en ce moment, il n'y a pas une tentative de coup d'État civil. Les militaires sont hors jeu en ce moment. C'est pas très bien vu, les coups d'État militaires en Amérique latine, par rapport au grand discours sur la gouvernance, la démocratie, etc. Mais il y a actuellement, si on prend ce qui s'est passé la semaine dernière, on a vu dans les départements de l'opposition, qui sont les départements qu'on appelle de la Media Luna, c'est-à-dire c'est géographiquement qui encerclent les hauts plateaux, les fameux hauts plateaux où sont situés les plus pauvres. On a eu dans le département de Pando des travailleurs de la préfecture qui ont attaqué des installations gouvernementales. On a eu à Trinidad, dans le Béni, 200 personnes qui ont envahi les installations des impôts, de la représentation présidentielle. Il y a eu des cocktails Molotov, attaque contre les militaires. À Santa Cruz, en août dernier, l'opposition a attaqué le commandant de la police, les commissariats de police. On est dans une espèce de posture de sédition, littéralement. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'au mois d'août dernier, on a eu un référendum révocatoire, que le président Evo Morales a gagné avec 67% des voix. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, lorsque l'opposition bolivienne se réclame de la démocratie, on a plutôt l'impression qu'elle considère que la minorité donne le droit de gouverner le pays.
Les rues de Santa Cruz sont désertes, les magasins et les banques sont restés fermés, la circulation réduite au minimum. Depuis mardi, Santa Cruz, bastion de l'opposition au président Morales, ainsi que quatre autres provinces du pays, ont entamé une grève générale. Les manifestants réclament une plus grande part des revenus du secteur énergétique. Depuis plusieurs jours, la tension était vive dans ces régions autonomistes du pays. La police a dû disperser la foule lorsqu'ont éclaté des affrontements entre groupes rivaux.
Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va vers une sécession ?
Est-ce qu'on va vers une sécession ? Je veux dire, on est à un stade très préoccupant, je l'ai dit, puisque y compris le gouvernement, là actuellement, l'a annoncé en fin de semaine dernière, envisage d'instaurer un état de siège dans les régions en turbulence. Donc la situation est extrêmement sérieuse. Alors ensuite se pose aussi la question d'ailleurs de la gestion d'Evo Morales. Il est évident que c'est pas parce que c'est un gouvernement de gauche qu'il ne commet pas des erreurs.
Ah bon ?
Non. Non, bien sûr que non. Ce qui ne retire rien à sa légitimité, y compris malgré ses erreurs, il a été confirmé dans ses fonctions par 67% de la population. Qu'est-ce qui se passe en Bolivie ? On est dans le pays le plus pauvre d'Amérique latine et donc tout naturellement, j'allais dire, après avoir nationalisé les hydrocarbures, le gouvernement qui a tiré de cette nationalisation des revenus beaucoup plus importants que ce qu'il touchait auparavant, a redirigé ces sommes supplémentaires qui ont intégré le budget national en direction des plus pauvres. Donc on a eu une série de mesures, comme on a dans tous les pays où des présidents essayent de changer les choses, le Venezuela, l'Équateur, avec par exemple la renta d'unidad. C'est-à-dire la renta d'unidad, c'est 20 euros par mois pour les plus de 60 ans. Alors vous allez me dire, 20 euros, franchement, c'est pas foulé, hein, mais rappelez-vous le contexte, on est dans le pays le plus pauvre d'Amérique latine, et compte tenu du niveau de vie des Boliviens les plus pauvres, en particulier des Indiens, 20 euros par mois, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Et puis il y a eu une série de mesures, il y a eu l'alphabétisation, environ 1 million de personnes, avec une méthode cubaine, ce qui a toujours en général tendance à ranimer un peu l'opposition.
Avec une méthode cubaine. Ah, cubaine.
Si puedo, que la même qui a été utilisée
au Venezuela
par Chavez. Série de mesures qui, incontestablement, ont le soutien et l'approbation de la population. Sauf que, dans ce pays, la majorité des pauvres sont indiens. Bien. C'est donc vers eux que se dirigent ces politiques sociales. Ce qui fait se poser la question à beaucoup, mais est-ce qu'on ne serait pas en face d'une politique indigéniste? Bon. C'est-à-dire que là où ailleurs on parle de populisme, en Bolivie on parle d'indigénisme. Et y compris c'est un discours qui a pris dans une partie de la classe moyenne qui avait voté pour Evo Morales. C'est-à-dire des gens qui sont métis ou qui sont blancs, et qui vous disent « oui mais nous on voulait sortir du racisme et là on est en train d'assister à un racisme à l'envers. C'est tout pour les Indiens ». De sorte que ceux qu'on pourrait appeler les séparatistes, même y compris pour certains les fascistes, ont réussi à récupérer une partie de la classe moyenne qui au départ souhaitait le changement dans le pays. Et qui se rassemble autour d'un drapeau qui est le drapeau de l'autonomie. Bon. Dans les quatre régions qui sont des régions autonomistes, on en a deux qui ont évidemment pour le pays une importance vitale parce que c'est là que se produisent les hydrocarbures. Hein, le gaz, Santa Cruz, Tarija. Bon, il se trouve que ces quatre départements, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, ont organisé un référendum totalement illégal.
Mais qui dit
oui à l'autonomie. Or,
c'est curieux, j'ai remarqué un truc, c'est que les riches veulent jamais payer pour les pauvres.
Exactement. Alors, les gens à Santa Cruz, y compris le préfet que j'ai eu la chance de rencontrer, vous disent, mais attention, on n'est pas des séparatistes, on est pour une autonomie, vous comprenez, l'autonomie ici, c'est porté par les courants de la gauche modérée, comme vous en Europe, la gauche humaniste, la gauche progressiste, tout le monde est de gauche, en Bolivie. Sauf que, et on vous dit, c'est pas le Kosovo aussi quand même, sauf quand même qu'il y a un petit truc
qui gêne un peu, c'est que l'actuel ambassadeur des États-Unis en Bolivie, et qu'on voit souvent avec l'opposition à Santa Cruz, était précédemment en poste au Kosovo. C'est pas de chance, c'est pas de peau,
non, c'est un hasard.
C'est un hasard, mais il n'en demeure pas moins que c'est un fait. Alors quand on voit le...
Promotion.
C'est la promotion, oui. Si on voit, oui, parce que Santa Cruz n'est pas une ville déplaisante, autant les hauts plateaux sont assiégés par la misère, hein, c'est les hauts plateaux qui sont à 4000 mètres, avec ces populations indiennes qui ont été abandonnées depuis toujours par la République bolivienne. Santa Cruz, qui est le cœur économique de la Bolivie, est une ville finalement assez agréable, et je comprends très bien que l'ambassadeur des États-Unis s'y plaise beaucoup plus qu'à La Paz. Au terme de ce référendum illégal organisé par les régions d'opposition et les départements d'opposition, je peux vous donner en deux mots les statuts de Santa Cruz. Santa Cruz s'octroie comme prérogative le téléphone fixe et mobile, les télécommunications, les routes et les chemins de fer, la définition des politiques et des programmes de l'éducation, l'électrification urbaine et rurale, la politique énergétique, les régimes du travail, de la sécurité sociale et de la santé, l'administration de la justice, la désignation des responsables des institutions et organismes de l'État, la création d'une police. Et on vous dit, mais non, attention, c'est une autonomie, c'est pas du séparatisme. Mais donc, la bourgeoisie de Santa Cruz a appuyé tous les coups d'État militaires. C'est elle qui a financé le coup d'État militaire du général Banzer. Et puis ensuite, lorsqu'est arrivé en Bolivie ce qu'on a appelé le bulldozer néolibéral, dans lequel le pays a été complètement bradé aux intérêts des multinationales, tous ces gens-là étaient au gouvernement. Et c'était les plus centralistes. Et c'est seulement à partir de 2003, lorsqu'est montée la force du mouvement populaire, lorsque le système a commencé à prendre l'eau avec la guerre de l'eau à Cochabamba, avec la guerre du gaz, et qu'ils ont senti leur intérêt menacé, qu'ils ont récupéré le mot d'ordre d'autonomie, et qu'ils ont réussi, en bénéficiant de l'aide des médias boliviens, à créer un courant d'opinion tendant à prouver que l'autonomie, c'était la démocratie, c'était la décentralisation. Et d'une certaine manière, ils ont réussi à se remettre en selle pour défendre à nouveau leurs intérêts, parce qu'en fait, l'autonomie s'en tape complètement, si je peux me permettre de parler comme dans la vie.
Merci.
Sempre a nudista, entupindo as prisões. Justiça, que justiça, se é sempre a nudista, entupindo as prisões. Justiça, que justiça, se é sempre a nudista, entupindo as prisões.
Merci à tous, merci à l'équipe du Monde Diplomatique, Bernard Ours, Pierre Concialdi, Maurice Lemoine et Richard Labévière, qui n'est pas du mot diplomatique, mais qui a témoigné au début de cette heure. Merci également à Michel Galli, dont vous lirez l'article avec profit, toujours sur le thème de l'humanitaire. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de là-bas, si j'y suis, à la technique aujourd'hui. Éric Morin et Ludwine Caron, c'est Coyenne Guyenne et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry en personne, et c'est Agnès Lebot qui attend vos messages coup de gueule, coup de cœur au répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Demain, on va ramasser des champignons dans les Cévennes avec François Ruffin. Ça serait plutôt des champignons en boîte avec des gens pas très contents autour parce qu'ils sont plus ou moins virés, mais on verra que ça finit. Et, oh, je vous dis pas la fin de cette heure. Et puis, vendredi, nous serons en direct, en chair et en os, là c'est le cas, à la fête de l'humanité de 15h à 16h. Un petit peu de réclame, s'il vous plaît.